Que le Seigneur soit béni. Ce sont des moments de grâce lorsque nous pouvons nous retrouver sous son regard. Vous en êtes tous convaincus? Lorsque j'ai commencé mon ministère, le pasteur qui m'a formé m'a dit « Tu sais Gérard, dans un troupeau, il y a toujours une brebis qui boite. » Bien sûr, c'est vrai. Mais quelle grâce lorsque tout un troupeau est dans les verts pâturages. Vous connaissez la parabole de la brebis perdue? Le Seigneur Jésus parle d'un troupeau. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel endroit il se trouve le troupeau? Qui c'est qui a dit dans le désert? C'est bien. Enfin, c'est bien. C'est la bonne réponse. Regardez, on peut le lire. Vous savez, quand on lit, il faut s'arrêter. Pourquoi une brebis se perd? C'est dans Jean au chapitre 15. Luc chapitre 15. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est terrible lorsque, vous savez, ce sont des paraboles, elles ont été enseignées pour que nous comprenions bien des choses. C'est terrible lorsque toute une église se retrouve dans le désert. Luc 15, verset 3. Il leur dit encore cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert ?» Vous vous rendez compte? Tout un troupeau. Tout un troupeau. Vous aviez jamais fait attention? Oui. Tout un troupeau dans le désert. La parole de Dieu nous dit, regardez, on va faire plusieurs lectures. Je vous encourage à les noter, ces lectures, peut-être à les relever pour vos cultes personnels. Vous allez voir que ça devrait vous faire du bien. Dans le livre des Romains, au chapitre 15, au verset 14, il y a plein d'instructions. C'est ça, être un vase. Tiens, j'accepte que les mains du potier se posent sur moi. Comment? Eh bien, par la parole, par des versets que je vais apprendre. Regardez, Romains chapitre 15, verset 14. Regardez cette exhortation. Vous aimez les exhortations? Les exhortations, quel mot vous pourriez utiliser pour exhortation? Sermon? Encouragement, oui, c'est le mieux. Romains 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Est-ce que vous regardez ce que le Seigneur attend? C'est pas l'apôtre Paul. Plein de bonnes dispositions, rempli de connaissance. C'est clair que ça passe par la connaissance, même si ça doit se manifester par le cœur. Ça passe par la connaissance. Mais quand même, c'est beau quand Dieu peut dire à une église, vous êtes tous capables de vous exhorter les uns les autres. C'est beau ça. Ça, c'est une église, bien sûr, qui n'est pas dans le désert. C'est une église qui est dans les verts pâturages. Chacun reçoit, il est dans un bon état d'esprit et il est capable d'exhorter les autres. Hébreux chapitre 3, verset 13. Je pense qu'il est bien que je vous laisse ces versets parce qu'ils reviennent souvent. C'est la volonté de Dieu. Juste le verset 12. On pourrait lire le verset 12 qui est vraiment un avertissement. Oui, c'est quand même écrit. Hébreux, il y a le verset 12 qui est à. Mais le verset 13. Le verset 12. Prenez garde, frère. Oui, il faut faire gaffe. Hein. Attention. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur. Comment? Mauvais. Incrédule. Il y a des chrétiens qui ne croient pas. Au point, bien sûr, c'est comme ça que les brebis se retrouvent dans le désert. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque dimanche matin. Comment vous avez dans votre Bible? Ah oui, pardon. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez, ce sont des exhortations, ce sont des ordres bénis. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Un petit peu avant, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, vous voyez, la même pensée, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Vous savez, ça plaît au Seigneur quand on prend ses exhortations au sérieux et qu'on se dit, mais moi je vais vivre ces choses, je vais les vivre. Vous voyez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Comme en réalité vous le faites. Bon, Thessalonique, c'est une bonne église, franchement. Mais voyez, quand même, ça n'empêche qu'il faut entretenir ce feu. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Cette expression « les uns les autres » revient souvent dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres, voyez, exhortez-vous, supportez-vous. Supportez-vous, ça ne veut pas dire « bon, mais je... » Non, ça veut dire que je le porte, je porte mes frères et je porte mes sœurs. Ne le cherchez pas, mais dans Jude, au chapitre, verset 20, il est dit « édifiez-vous vous-même ». Vous attendez beaucoup de qui, au fait ? Dans l'Église, vous êtes chrétien, vous attendez l'exhortation de qui ? Du pasteur ? Qui c'est qui a dit du pasteur ? Est-ce que vous attendez que le pasteur vous exhorte ? Ben oui, ben heureusement. J'espère que vous priez pour que le pasteur apporte la pensée de Dieu. Et il est certain qu'un pasteur il doit exhorter l'Église, c'est absolument évident. Mais vous pouvez le faire vous-même. Édifiez-vous vous-même, et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre ? Sur votre très sainte foi. La parole de Dieu, c'est extraordinaire. Chaque parole, et c'est ce qu'on va voir ce soir, a le pouvoir de nous exhorter, de nous édifier. C'est pour ça que, vous voyez, ces quelques versets, on aurait pu en prendre plein d'autres. Exhortez-vous, édifiez-vous. Quelle grâce lorsqu'on va dans une église et de savoir que la personne avec qui l'on va discuter va nous faire du bien. Oui ou non ? Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que vous venez à l'église, que vous espérez également recevoir et que vous espérez également donner ? Encore un petit texte, acte 16. C'est bien que nous lisions parce que c'est la preuve que ces choses sont voulues de Dieu. Acte 16, verset 5. Regardez s'il est beau ce verset. Comment les églises fonctionnaient ? Comment la nôtre peut fonctionner ? Parce que c'est un choix. Ce que nous vivons dans une église est en vérité le choix de chacun. Regardez, acte 16, verset 5. Les églises, qu'est-ce qu'elles faisaient les églises ? Elles se fortifiaient dans l'animation. Non, ah pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Dans la foi. Et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc il y avait quand même une conséquence, un fruit qui faisait que les églises... grandissant. Est-ce que nous sommes conscients de cela, de veiller les uns sur les autres ? Est-ce que pour vous c'est important de donner un bon témoignage, de faire du bien aux autres ? Est-ce que c'est bien ? Je me souviens un jour, il y avait un jeune stagiaire qui était parmi nous, il avait été, mais vraiment, un gars qui était bien, j'en ai eu de bien quand même, mais vraiment il avait été choqué par une sœur qui, après le jeûne et prière, avait eu des paroles, mais négatives, mais vraiment, vraiment négatives, pour ne pas dire pire. Il ne comprenait pas. Je dis, mais tu sais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il était profondément choqué. D'autant plus que nous le savons. D'un côté, il y a cette exhortation à être des sources de bénédiction. Je veux être pas dans un désert, je veux être dans les verts pâturages. C'est un choix. Quand quelqu'un... Alors, Dieu peut permettre... Est-ce que Dieu peut nous conduire dans le désert ? Est-ce que c'est écrit ? Je la conduirai dans le désert afin de parler à son cœur. Il y a des moments où Dieu ne peut pas nous parler. Alors, excusez-moi l'expression, hein, mais il nous coince dans une situation pour que l'on puisse être obligé d'entendre. Nous savons en même temps que tout ira de plus en plus mal. Est-ce que c'est prophétisé ? Oui, c'est écrit. À cause, vous savez, il y a des versets, ça vous fait mal au cœur. Mais c'est Jésus qui les a dit. À cause de l'iniquité, ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. L'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est une prophétie. Ça peut pas être. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens, ils aiment la bénédiction. Les gens, ils aiment bien les consolations. Mais ils n'aiment pas la parole. Ils ne veulent pas de la croix. Alors, l'iniquité est de plus en plus répandue, à satiété. Vous avez vu Internet, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Et c'est pour ainsi dire gratuit. Le péché, il est gratuit. C'est grave, on pourrait... Voilà, c'est écrit que la foi disparaîtrait, que beaucoup abandonneraient la foi. Est-ce que c'est écrit ? Eh ouais, c'est écrit. L'égoïsme, n'en parlons pas dans 2 Timothée. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est une prophétie. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez une parole d'exhortation, vous voyez une consolation, un enseignement, vous voyez des paroles prophétiques. Les paroles prophétiques, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec peut-être un petit peu plus de sérieux, parce qu'il ne peut pas en être autrement.
Jésus dit qu'avant son retour, les gens seront méchants, comme du temps de Noé. Comment ils vivaient les gens du temps de Noé? Vous vous rappelez comment ils vivaient? Les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Et Jésus est catégorique, il décrit l'atmosphère morale du temps de Noé, et il dit, mais c'est de manière catégorique, on va le lire pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Je sais que beaucoup vous le connaissez par cœur, mais ça fait rien. C'est bien de le lire. Voyez Matthieu 24, verset 37. C'est une prophétie. Vous savez, quand c'est Jésus qui parle, quelle grâce connaît ça en français. Et Jésus a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. C'est bien? Ah oui, c'est bien. C'est merveilleux, quelle grâce. Le Seigneur n'a pas donné que sa vie au calvaire, il nous a tout donné en même temps. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Alors au fait, est-ce que c'est bien de manger? Est-ce que c'est bien de boire? Est-ce que c'est bien de se marier? De marier ses enfants, alors qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au jour où... Mais ça veut dire que les gens, ils pensaient qu'à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils pensaient qu'à eux. Ils ne pensaient pas à leur âme. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même. Et vous lisez la Genèse et vous verrez ce qui s'est passé avant le déluge. C'est exactement ce qui se passe. La terre était corrompue. Est-ce qu'il y a de la corruption? Vous avez vu au niveau du gouvernement comment c'est beau, hein, chaque fois qu'on apprend, eh bien c'est comme ça, c'est pareil, c'est partout pareil. La terre était corrompue et ça ne va pas faire en s'arrangeant, ça va empirer. On le sait et voilà, il en sera de même. Et Jésus, dans sa grande bonté, a dit, vous aurez des tribulations. Qu'est-ce qu'il ajoute après? Mais prenez courage. « J'ai vaincu le monde » de Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations. On a des moments d'affliction, on a des jours mauvais. Est-ce que tous les jours sont bons? Non, il y a des mauvais jours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des combats. Est-ce qu'il y a des luttes au-dedans? Est-ce que Paul parle des luttes? Ça vous arrive des fois d'avoir à l'intérieur des combats là? C'est pénible. Le Seigneur parle de tout cela, des épreuves. Est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans la famille, des épreuves dans le corps, dans la santé, etc. On pourrait faire la liste, la longue liste de tout ce qui représente les épreuves. Mais c'est écrit. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Et Jésus parle de ceux qui prennent le baptême et qui, dès que surveille une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Oui, il y a des chrétiens, ils prennent le baptême, ils n'ont accepté Jésus que comme sauveur, ça fait que dès que se produit une épreuve ou une tribulation, ils ne l'acceptent pas, c'est pas normal. Mais pourtant si, c'est normal, et Dieu sait ce qu'il fait. Les ruses du diable ont ce seul but de nous décourager et de nous faire tomber dans une attitude où on va perdre la foi. On va perdre la foi. Vous savez quand il est dit que justement les gens, ils abandonneront la foi. Quand je pense à ce verset, je pense à tout ce qu'on peut abandonner. Vous avez déjà jeté des trucs à la poubelle qui ne vous servaient plus à rien? Ça vous est déjà arrivé de jeter? Tiens, l'autre jour, moi, j'ai jeté une tronçonneuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne marchait plus. Abandonner la foi, c'est qu'elle ne doit plus marcher beaucoup, vous voyez. Quand les gens abandonnent la foi, c'est qu'elle ne doit pas leur servir beaucoup. Parce que je crois que quand on a la foi, on n'a pas envie de la perdre. Quand on l'abandonne, c'est que ça va vraiment mal. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant qu'il cherche, qui il dévorera. Le diable, il est patient et il cherche et il regarde dans quel état nous sommes. Vous vous rappelez David, pourtant Achipotel qui était un homme... Achipotel, c'était quelqu'un de bien. Mais vous avez vu, on a vite fait de basculer. Et il a donné un conseil pour Absalom, il a dit on va attendre qu'il soit fatigué. Et quand il sera fatigué, on le surprendra. Vous avez vu combien... Pourtant c'était un homme de Dieu, Achipotel. Mais là il a été séduit par le pouvoir que Absalom devait obtenir, et il s'est vraiment, vraiment fait avoir. Le résultat c'est qu'on a vite fait de tomber. Regardez ce texte dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, c'est un verset qui fait mal au cœur parce qu'hélas, nous l'avons vérifié plein de fois. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Vous voyez cette importance de prendre courage, comment également en veillant à certaines choses. Hébreux 12, verset 15, veillez. Vous voyez, c'est ça l'Église. Je veille sur mon frère, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et le résultat, vous avez vu, est que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce qu'un mauvais témoignage peut affecter les autres? Ben oui. C'est pour ça qu'il y a des scandales, des pierres d'achoppement. Ça, c'est terrible, ça. Quand par notre témoignage, eh bien, on amène les autres dans le désert. Parce que quand Jésus parlait, n'oubliez pas qu'il parlait à des pasteurs, à des pharisiens qui étaient très loin de Dieu et qui se croyaient très près. Et ils n'ont pas apprécié, parce que s'il a parlé des brebis qui étaient dans le désert, c'est pour dire que le troupeau d'Israël était dans le désert, malgré leur religion. Et nous aussi, il faut veiller à certaines choses afin que nous ne soyons pas dans le désert. On va revenir à cette histoire de 2 Samuel. Parce que quand même, vous savez, l'ennemi, il a combien d'expérience, au fait? Combien d'années d'expérience il a, d'après vous? Eh bien, des millénaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le diable, il a des millénaires d'expérience en ce qui concerne la façon dont il peut séduire les hommes. Et il sait très bien le faire, croyez-moi. 2 Samuel, chapitre 21. Alors, 2 Samuel 21. C'est important de voir les ruses du diable pour nous décourager, en fin de compte, ou pour nous détruire, ou pour nous faire perdre la foi. Alors, 2 Samuel 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Des guerres, est-ce qu'il y en a des guerres intérieures, des combats, vous voyez? Firent encore, le mot encore, ça nous rappelle que ça ne se termine pas. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Il y a les trois mots qui suivent en disent long. David, comment il était David? Il était fatigué. Bien sûr, c'était plus le jeune David qui a terrassé Goliath. Les années ont passé, il était fatigué. Est-ce que ça peut arriver d'être fatigué? Ah oui, il était fatigué, c'est écrit. Le Saint-Esprit a voulu que nous comprenions bien que même si on est un serviteur du Seigneur, une servante, un chrétien, une chrétienne, on peut être fatigué. Et heureusement qu'il n'était pas seul. Voyez l'importance de l'Église. Est-ce que c'est important l'Église? Ah oui, il y a des gens qui ne veulent plus aller à l'Église. Il y a des gens qui ne veulent plus. Il y en a même qui disent, j'ai encore reçu un mail hier d'un frère qui disait, il n'y a plus besoin d'Église. Moi, je pense que le gars qui dit ça, il est loin du Seigneur. Je pense que Dieu a institué l'Église, il a donné sa vie pour construire l'Église, il bénit l'Église. Le corps de Christ est une réalité, on a besoin de l'Église et il vaut mieux être auprès de l'Église parce que quand on est loin du corps, on est loin de la tête. Et je crois qu'elle est belle l'Église lorsqu'elle est constituée comme Dieu le veut. On a besoin d'une église et lorsqu'on se retrouve seul, on est super en danger. David était fatigué et il y a, vous connaissez ces 4 fils de ces Philistins là. Au fait, parce que moi j'ai entendu plein de prédications là-dessus. Certains ont dit que c'était les fils de Goliath. Certains ont dit que c'était les frères de Goliath. Vous savez quand David est arrivé sur le champ de bataille et qu'il est descendu dans le torrent. Qu'est-ce qu'il a pris dans sa gibecière? 5 pierres. Alors qu'il en a utilisé qu'une. Moi j'ai entendu plein de trucs là-dessus. Et en fin de compte, je pense, vous allez voir, je ne pense pas. David a pris la précaution de prendre des munitions supplémentaires. Parce que c'était ses frères. Alors vous allez me dire, ah, mais pourquoi toi tu dis que c'est des frères? 1 Chronique chapitre 20. Regardez s'il est beau ce verset. Non mais c'est comme ça parce qu'il y a des gens qui disent oui c'était les frères, c'était les fils. Eh bien c'est écrit. Merci Madame Martinez. 1 Chronique 20 verset 5. Il y eut encore une bataille avec les Philistins et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin d'interpréter, c'est écrit. Donc c'était bien les frères et si David avait pris 5 pierres, c'est parce que Goliath n'était pas seul, en vérité, il y avait ses 5 frères. Alors vous allez me dire, c'est un détail, mais enfin, voyez, c'est quand même important de le réaliser. Plus loin, vous voyez, de Samuel chapitre 17, à Chipotel, vous voyez comme quoi il faut faire attention. Il faut vérifier le fruit chez un homme de Dieu. Il faut faire attention. De Samuel 17, verset 1er, Achipotel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même, je le surprendrai pendant qu'il est affaibli, fatigué, et que ses mains sont affaiblies. » Vous voyez combien c'est important. Il faut veiller sur sa fatigue. Je ne parle pas de la fatigue du jour. Quand on est fatigué, comme tout à l'heure, à 10h, on va se coucher, on va être fatigué, c'est tout à fait normal. Je parle de la fatigue spirituelle. Il faut veiller. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi il a des millénaires d'expérience. Et s'il peut nous amener sur un terrain d'incrédulité, de fatigue spirituelle, où on va perdre la foi, croyez-moi, il le fera. Et c'est Paul qui dit de ne pas ignorer ses desseins. Et c'est pour cela qu'on doit veiller les uns sur les autres. Et méfiez-vous de ne jamais abandonner le corps de Christ. On a besoin les uns des autres. Est-ce que vous comprenez? Même s'il peut arriver que 99% du troupeau se retrouve dans le désert. Je me doute que ça ne doit pas être facile de se retrouver dans un troupeau où tout le monde est découragé. Franchement, ça ne doit pas être facile. Que Dieu nous garde de cette affaire là où Dieu nous a placés. Mais le découragement, c'est terrible. Vous avez lu le livre des Nombres. Vous avez vu tout le peuple d'Israël composé de 600 000 hommes. Ils ont été découragés par combien d'hommes? 10. Ils étaient 12, mais il y en a 10 qui les ont découragés. 10 hommes en 5 minutes, ils ont découragé tout le peuple. Vous pouvez le vérifier dans Nombres 13, 32 à 14, 4. Vous le lirez, s'il vous plaît, vous lirez, vous verrez comment on a vite fait de décourager les gens. Vous vous rendez compte? 10 hommes. 10 à cause de ces 10 chefs, c'était des chefs, c'était les responsables de toutes les tribus d'Israël. Dieu avait demandé qu'un chef de chaque tribu, dont ils avaient pris le meilleur certainement de chaque tribu, eh bien, il y en a sur 12, il n'y en a que 2, Josué et Caleb, qui eux ont dit non, non, obéissons, emparons-nous. Et ce sont eux, après, que Dieu a utilisé, même s'ils étaient vieux, ce sont eux que Dieu a utilisé, eh bien, pour amener la bénédiction. Dans le pays, 10 hommes qui découragent 600 000 hommes, ça prouve une chose, quoi? Eh bien, que le découragement, c'est contagieux. C'est contagieux, le découragement. Vous le savez que c'est contagieux? C'est pour ça que nous, parents, par exemple, nous avons une immense responsabilité d'encourager nos enfants. Ah, ben, je ne sais pas comment tu vas faire. Eh bien, avec les professeurs qu'il y a aujourd'hui, eh bien, mon pauvre, t'es mal barré. Et je ne sais pas si tu auras du travail. Mais moi, j'ai entendu des parents chrétiens parler comme ça à leurs enfants. Vous voyez comment ils leur font du bien. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il gardera ses enfants jusqu'à la fin. Quoi que ce soit qui se passe, tant que la porte de la grâce est ouverte, Jésus gardera ses enfants. Quelle que soit la misère, comme la sœur qui priait tout à l'heure, enfin qui priait, qui louait plutôt, Madame Kimpolo, qui louait le Seigneur et qui disait, qui rappelait ce verset de l'Écriture, que lorsque le déluge est venu sur la terre, le Seigneur, il était sur son trône. Le Seigneur règne et il règnera sur tout. Et nous devons décourager. Peut-être que vous avez lu les lois de la guerre. Vous avez lu les lois de la guerre dans la Bible? Il y a des lois sur la guerre. On en lit une, Deutéronome chapitre 20. Vous savez, c'est la guerre, c'est parce qu'on est des combattants. Vous êtes d'accord? Les enfants du Seigneur, ce sont des combattants. Exhortez-vous, édifiez-vous, fortifiez-vous, etc. Ça nous parle quelque part du bon combat de la foi. Donc, qu'est-ce que Dieu dit sur la guerre? Deutéronome chapitre 20, regardez. Les lois de la guerre, c'est peut-être pas les textes que vous lisez le plus souvent, mais quand même, ils sont utiles par rapport à l'exhortation de ce soir. Deutéronome chapitre 20, verset 8. Il y a tout un tas de lois là dans ce chapitre sur la guerre. C'est très intéressant. Regardez, pour nous prouver que le découragement est contagieux. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple. Vous voyez, il y avait tout un débat. Et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Oui, ça c'est les lois de la guerre, c'est Dieu qui parle. Et il sait très bien que si quelqu'un est découragé, eh bien, il vaut mieux qu'il rentre à la maison. Plutôt que de décourager toute une section, toute une compagnie, tout un groupe d'hommes. Oui, c'est quand même clair. S'il manque de courage, on ne voit pas un jugement, on voit une protection. Qu'il retourne chez lui. Et mes frères, je crois que dans l'église du Seigneur, on devrait quand même veiller à cela. Seigneur, je suis découragé, je n'ai pas envie d'aller décourager les enfants, d'aller décourager les personnes nouvelles. Moi, j'ai déjà vu, j'ai repris ici, un frère de l'église qui, devant des adolescents inconvertis, a eu des propos mais négatifs. Et sur le coup, j'ai même cru qu'il plaisantait. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mais vous plaisantez ? Non, non, je ne plaisante pas, je le pense. Mais je dis, est-ce que vous réalisez ce que vous venez de dire devant des adolescents qui ne sont pas convertis ? Bon, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, moi je crois qu'on a le devoir de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas important pour vous ? Quelqu'un qui est découragé, il va décourager les autres. C'est pour ça que dans une église, il faut absolument veiller. À moins que nous voulions que toute l'église soit de travers, lorsque Jésus va revenir, on en déduit quand même en lisant les lettres de l'Apocalypse que ça ne va pas trop bien à la fin. Puisque Jésus parle tous et puis dit à celui qui vaincra. Donc on voit bien que ça risque d'être léger, la quantité de chrétiens qui seront pris. Quel témoignage laissons-nous auprès des autres ? Vous avez des voisins, des amis, des frères, des sœurs dans l'église. Quel témoignage laissez-vous si demain vous deviez mourir ? Qu'est-ce que je dirais à votre enterrement ? Qu'est-ce que je dirais demain ? Si Monsieur de Dieu devait partir, qu'est-ce que je dirais ? Il y aurait trop de choses à dire. Ne partez pas, Monsieur de Dieu, ne partez pas. Le sermon serait trop long. Oui, mais quand même, est-ce que c'est dit qu'il faut honorer les frères ? Ah oui, c'est dit. C'est, si, mais c'est beau quand quelqu'un rend un beau témoignage et qu'on peut l'honorer. Mais franchement, on devrait tous quand même s'interroger, dire, mais quel témoignage je laisse ? Puisque Jésus a dit, vous serez mes témoins. Quel témoignage j'ai laissé à mes enfants, à l'église dans laquelle je suis, dans laquelle je suis pasteur, dans laquelle je suis chrétien, etc. Comment réagissons-nous ? On va terminer avec cette fameuse histoire dans 1 Samuel au chapitre 30. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté, je pense que vous avez tous étaient stupéfaits en lisant cette histoire. Un Samuel, chapitre 30. Vous savez, c'est compliqué parce que David voulait aller faire la guerre, puis il a été empêché de combattre. En fait, c'est très compliqué le cursus de David à cette époque-là. Et puis, en fin de compte, bon, il ne peut pas combattre parce que c'est très compliqué. Regardez, 1 Samuel, chapitre 30. Il faudrait tout lire. Lorsque David arriva la troisième jour à Tsiklag avec ses gens, c'était sa ville, les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays de Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, imaginez-vous, elle était brûlés, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Vous vous rendez compte, il arrive dans sa ville, il n'y a plus rien, des cendres et de la fumée. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jisréel et Abigaïl de Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Vous voyez, il y a des tribulations. En plus, parce qu'il faut toujours un coupable. Car le peuple parlait de le lapider. En plus, il a perdu tout, sa ville est brûlée, et en plus, les collègues commencent à parler de le supprimer. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Tout le monde était désespéré. Mais la parole qui suit détermine ce qui se passait quand même dans le cœur de cet homme. Mais ça veut dire que comparé aux autres, David, lui, s'est positionné. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Les autres, non, mais lui, il a dit, non, il faut que j'ai une parole de Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abishimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Et vous lirez la suite, on va lire le verset qui nous manque, qui nous faut, verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, il délivra aussi ses deux femmes, Il ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Je le relis. David ramena tout, plus le butin en plus. David ramena tout. Le diable, c'est un voleur, capable de tout nous voler. Mais ce que nous avons besoin, c'est de reproduire cette expérience. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Eh bien, moi aussi, je veux une parole de Dieu dans mon cœur. Est-ce que c'est ça dans l'état d'esprit que vous êtes? Je veux une parole de Dieu dans mon cœur. Peut-être que c'est la même, mais poursuis. Continue. Ne te décourage pas. Tu atteindras. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous écoutez avec la tête ou est-ce que vous écoutez avec les oreilles du cœur? Est-ce que cette parole peut vous toucher? Oui, David ramena tout. Alléluia. Est-ce que ce soir on peut sortir, comme Lucas le disait, ou quelqu'un dans sa prière, qu'on ressorte meilleur, qu'on ressorte grandi, qu'on ressorte conscient que nous avons un Dieu tout puissant? Et que Dieu peut permettre, vous voyez, des incursions de l'ennemi pour nous mettre dans la panique. Il vous rendez compte, il n'y avait plus rien. Et tout le monde était découragé, en plus les autres parlaient de le lapider. C'est dur quand les autres ils commencent à vous critiquer. Mais David s'appuya sur l'Éternel. Il le connaissait. Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a tout pouvoir de tout ramener? C'est ça l'évangile. Est-ce que vous croyez? Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux, on n'est pas là pour faire une étude sur le découragement ou sur les lois de la guerre ou sur des versets intéressants parce qu'ils concernent une église en bonne santé. Est-ce qu'il faut prendre une décision, dire, mais oui, moi aussi, je veux tout ramener. J'ai perdu ça, oui, j'ai perdu mon zèle, je vais le ramener ce zèle. Alléluia, parce qu'après tout, on n'est pas là pour s'accabler. Et j'ai perdu un peu, peut-être pas tout, mais j'ai peut-être perdu... Vous voyez ce zèle que j'avais pour témoigner. Seigneur, redonne-moi du zèle. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, quand on a commencé le jeûne et prière, on a lu cette histoire où Paul et Silas étaient à Philippe, à l'étranger, et ils ont témoigné, ils ont parlé de Jésus. Ça n'a pas dû plaire à tout le monde. Et il y a des prêteurs qui se sont affairés, qui ont commencé à les attraper, à leur déchirer les vêtements. Quoique ça commence à... Déjà, non? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous déchire tous les vêtements? On déchire les vêtements, il est dit qu'ils ont été frappés, qu'ils ont été chargés de coups, donc blessés, et qu'un jugement a été très vite donné. On les a jetés en prison, attachés avec des fers, aux pieds, en tous les cas, c'est sûr, dans une prison intérieure. C'est-à-dire dans une prison où il n'y a pas de fenêtre, à l'intérieur de l'intérieur. Sans fenêtre, sans rien, en pleine nuit, blessé, les vêtements déchirés, dans l'humidité, avec peut-être quelques rats qui devaient couiner par là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez? J'ai envoyé un mail à la prison de Philippe pour savoir ce qu'ils ont chanté. C'est mon histoire et c'est mon chant. On va la chanter tout à l'heure. Mes frères et sœurs, pourquoi ils ont chanté? Imaginez-les. Blessés, jugés, les habits déchirés, tabassés, dans le noir, dans la nuit, et eux ils chantent. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils connaissent le Seigneur. Ils le connaissent. Et ça, ça plaît à Dieu. La preuve, c'est que Dieu, il connaît l'échelle de Richter, vous savez. Et il a tout programmé. Mais le résultat, ce n'est pas que les portes se sont ouvertes, c'est que les liens des prisonniers sont tombés. Cela veut dire que lorsqu'un chrétien a du courage, lorsqu'un chrétien chante, il fait confiance, bien sûr pas chanter pour chanter, mais quand il chante, Seigneur, mais ça prouve, Seigneur, mais on te fait confiance. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que ce soir, vous pouvez dire dans votre âme, Seigneur, j'ai une confiance aveugle. tu as tout pouvoir pour décoincer les portes. Il ne le dit pas, ça, j'ouvre les portes, je les ferme, il ne le dit pas. Vous vous rendez compte, les liens des prisonniers sont... Vous vous rendez compte de cette précision? Parce que le Seigneur, nous, on aurait fait un tremblement de terre, on tuait tout le monde. Vous voyez, on aurait dit, allez, l'échelle de Richter, 3, 4, on essaye 4. Paf! Ils sont tous... Allez, je blague, mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur juste ce qu'il faut. Clac, clac, les portes qui s'ouvrent, les liens qui tombent. Et eux, ils chantent. Moi, j'aimerais qu'on termine cette réunion en chantant. Mais en chantant vraiment au Seigneur. Peut-être que c'est la première fois que vous chanterez, mais avec cette confiance. Comme Paul et Silas, je vous dis, il m'a envoyé le mail à la prison de Philippe. C'est mon histoire et c'est mon chant. Est-ce qu'il y a des musiciens qui veulent venir chanter? Il n'y avait pas Jonathan et Ketia dans la prison. Ils chantaient a cappella. Mais quand même, vous avez envie de le glorifier, le Seigneur? Parce que vous savez, la réunion, c'est quel numéro? Mes frères et sœurs, vous avez envie de vivre cette affaire? Ou est-ce que c'était réservé à David? À Paul et à Silas? Est-ce que Dieu fait des chouchous? Ou est-ce que c'est réservé à tout le même? Est-ce qu'on est tous à égalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter ce cantique avec la même assurance? J'ai l'assurance. Alléluia. Est-ce qu'on veut... C'est une prière, c'est une réponse. Je vous demande, je n'ai pas envie de terminer par un chant pour chanter. Mais je voudrais que nous expérimentions qu'il y a dans les chants la possibilité d'exprimer du spirituel. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait quand j'ai fait l'AVC. Moi, je peux vous dire que quand j'ai fait l'AVC, je ne pouvais pas chanter parce que j'avais perdu la voix. Mais dans mon cœur, je chantais. Pourquoi? Eh bien, parce que j'avais confiance. Je chantais, oui. Je chantais vraiment. Je vous promets devant le Seigneur. J'ai l'assurance. On va le chanter. Oui. Allez-y, prenez. Il ne vous plaît pas? Là, je sais. On va se lever pour le chanter. Mais j'aimerais qu'on le chante. Vous savez, Dieu va voir comment vous le chantez. C'est moi. Je l'ai pris parce que le cantique dit... C'est mon histoire. Voilà. Vous avez vu le refrain? Mettez-moi le refrain, s'il vous plaît. C'était l'histoire de Paul et Silas. Est-ce que vous voulez que ça soit votre histoire? L'assurance. J'ai l'assurance. Je suis son enfant. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur du lendemain. Les lendemains, ils vont être ténébreux. Les lendemains du monde, ils vont être dans la détresse. Les chrétiens, ils peuvent être remplis d'espoir. Vous entendez? De consolation. Vous le connaissez, le Seigneur? Si vous le connaissez, vous pouvez partir dans la rue. Faites attention quand même, pour les voisins, après 10 heures. Mais vous pouvez chanter dans votre cœur. J'ai l'assurance. C'est mon histoire. Moi aussi, je veux mon histoire. Je veux mon histoire à moi. La grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. Chantons avec... Mais chantons comme Paul et Silas chantaient. J'ai pas réussi à avoir l'enregistrement, mais j'ai juste eu la photocopie du chant. On le chante de tout son cœur, hein? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. L'eau est mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. L'eau est mon sauveur le jour du rang. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille à Nathan dans ton retour, je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, l'eau est mon sauveur le jour du rang.
C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour du vent. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Son amour, c'est mon histoire, c'est là mon chant. L'eau est mon sauveur, le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. L'eau est mon sauveur, le jour du rang.
Alléluia, vous pourrez dire que vous saviez quel était le cantique qu'il chantait. Mais vous ne dites pas que c'est moi quand même qui vous l'ai dit.